Bonsoir à tous, merci d'être présents donc, pour cette dernière journée du festival Raison d'agir. Ce soir, nous allons avoir le plaisir d'entendre Pascal Boissel, qui est psychiatre d'orientation psychanalytique et qui est par ailleurs membre de Raison d'agir, mais aussi membre de l'association ASPES et qui est l'auteur de divers articles sur la question psychiatrique, dont un article qui a été publié dans le livre intitulé « La France des années 1968 », dont il nous parlera tout à l'heure, donc je ne donne pas de précisions supplémentaires, et qui va nous parler donc ce soir de la contestation de l'ordre psychiatrique. Donc je lui laisse la parole.
Allô. Donc c'est à partir d'un article qu'un camarade de Paris m'a demandé. Donc c'est dans ce livre-là, sur la France des années 1968, 30 euros chez Tileps. Et c'est si je me suis retrouvé à faire ça, c'est parce que je connaissais celui qui a fait l'article sur l'écologie, qui habitait à Poitiers, qui s'appelle Vincent Guay, qui est responsable des questions écologiques avec d'autres à la Ligue communiste révolutionnaire. Et sur la question de la psychiatrie, il n'y avait plus personne. Alors, donc j'avais rangé absolument toutes mes archives sur les années 70, quelques mois auparavant, donc je ne suis pas d'une compétence extrêmement pointue, surtout que comme j'avais 11 ans en 68, ce n'est pas du vécu. Mais donc je me suis replongé dans des choses que j'avais relues, que j'avais déjà lues, et un certain nombre de revues que j'ai reçues, et à partir desquelles j'ai travaillé. Par rapport à ce livre-là, donc, pour ceux qui étaient à la conférence d'hier, Pudal a insisté sur le fait que le livre qui met juin 68 est un livre d'historien qui apporte des études nouvelles sur ce qui s'est passé en mai juin 68. Ce livre-là est un livre qui a une perspective différente. C'est d'abord un livre fait par des militants qui continuent à militer. Donc c'est pas, il y a des universitaires, il y en a qui ne sont pas universitaires. Ensuite, c'est un livre qui s'adresse, c'est les années, la France des années 68. Donc c'est l'idée qui est quelque chose qui a commencé avant 68, mais qui s'est poursuivi. Donc toute cette expérience militante qui a duré au moins jusque vers 78. La séquence qu'ils ont choisi de prendre, c'est 68 jusqu'à 1981, puisque 1981, on peut considérer qu'avec l'élection de Mitterrand, assez rapidement, comme avait dit Guy Bedos avant d'avoir la Légion d'honneur par Mitterrand, avant ils voulaient changer la vie, après ils ont changé d'avis. Donc il y a quelque chose qui s'est arrêté en fait assez rapidement après mai 81, mais qui a commencé à s'éteindre auparavant. Donc voilà. Donc ce dont je vais vous parler, c'est sur les critiques de la psychiatrie. Donc alors, la question, le livre est de parti pris par rapport à une orientation politique qui n'était ni celle du Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste déjà à l'époque n'avait pas de ligne politique puisqu'il existait peu, ni celle du Parti Communiste qui lui avait une ligne politique assez forte, pour l'instant il n'est pas dans la salle, et ni celle de la CGT. Ni celle non plus de la contestation maoïste, qui était en lien avec l'appareil d'État chinois. Donc de fait, c'est les courants qui sont représentés, les courants qui sont liés à certains courants trotskistes et à des courants d'autogestion révolutionnaire. Alors, donc la question qui est, alors en 68, on ne retrouve pas des revendications importantes par rapport à la question de la folie. Mais dans les années suivantes, c'est arrivé assez rapidement. La folie, à l'époque, la plupart des personnes qui étaient hospitalisées, elles étaient en placement dit volontaire, c'est-à-dire contre leur volonté, et de manière longue. Chose qui a complètement changé à notre époque. Enfin, moi, je me rappelle, il y avait des formules dans la région parisienne, c'était bon aller à Charenton, c'était donc l'hôpital psychiatrique, et c'était comme l'idée qu'une fois qu'on était là-dedans, on n'en ressortait pas dans l'esprit populaire. Moi, j'étais dans l'Inde, j'étais on va te foutre à Gérogne. Bon. Il y avait quelque chose. C'était lié à un certain nombre de choses effrayantes. Alors, sur la problématique qui s'est posée, donc j'ai été montré à la fois la contestation telle qu'elle s'est posée et les contradictions à l'intérieur de la contestation. Donc, il y avait un courant qui existait depuis longtemps, qui s'appelait le courant de la psychothérapie institutionnelle, qui regroupait un certain nombre de personnes, de psychiatres de gauche. Des courants comme le CMEA, les CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, qui existe toujours, avec une revue que je crois qui existe toujours, qui s'appelle Vie sociale et traitement, autour desquels il y a eu une évolution dans l'après-guerre, où les gardiens d'asile sont devenus des infirmiers psychiatriques, où il y a eu des réunions de services organisées, où il y a eu toute une réflexion sur l'institution, sur son évolution et sur la critique de l'institution. Ce qui était considéré comme à la base, c'était qu'un certain nombre de personnes avaient été déportées, et donc il y avait une critique de l'enfermement, comment arriver à... Il y avait à sortir d'une logique de l'enfermement qui renvoyait à ce qu'ils avaient pu vivre dans les camps de concentration. Sachant que dans les années 70, on parlait de camps de concentration, on ne parlait pas de camps d'extermination et qu'on ne parlait pas de la Shoah matin, midi et soir comme maintenant, on n'en parlait à peu près pas par rapport au contexte de l'époque. Donc ce courant-là, au point de vue théorique, se référait à Marx et Freud, d'une manière assez particulière, enfin, il le faisait, et il apportait une critique de ce qu'il appelait une double aliénation, l'aliénation mentale et une aliénation sociale. L'aliénation mentale renvoyant à des processus psychiques qui se redoublaient, qui étaient augmentés par une aliénation sociale, qui était le rejet par la société du fou. Donc il y avait l'idée qu'il fallait agir à la fois sur les deux aspects. Et donc il y a eu un certain nombre de propositions concrètes qui étaient faites par les psychiatres des hôpitaux pour agir ainsi. Et donc avoir une action thérapeutique assez importante. Donc à l'époque, il n'existait presque pas de psychiatres d'exercice privé. Donc la question de la psychiatrie, c'était celle des hôpitaux presque exclusivement, plus la question de la psychanalyse qui allait être d'exercice privé. Mais pas exclusivement. Donc parmi les noms, je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu Jean Houry avec Laborde, qui existe toujours, Laborde et Jean Houry. Alors à Laborde, il y avait quelqu'un qui s'appelait Félix Gattari, qui a écrit dans les années 70 un livre qui a été très célèbre, qui s'appelait L'Anti-Oedipe. C'est assez difficile quand on relit de voir le lien entre Félix Gattari et Jean Houry. Ils s'aimaient bien, ils travaillaient ensemble. Félix Gattari travaillait à Laborde. Jean Houry était le médecin directeur de Laborde. Mais moi, je ne comprends pas très bien la cohérence entre les deux pensées. Mais ils ont cohabité, vu que Gattari est mort dans les années 80 à Laborde. Donc dans l'évolution qui avait eu lieu par rapport à... Donc il y avait une évolution d'une part par une réflexion sur ce qui se passait à l'hôpital, sur des créations de clubs, de groupes de travail sur ce qui se passait dans les équipes, etc. Et puis aussi, il y a eu l'invention et la diffusion des médicaments, les neuroleptiques dans les années 50, les antidépresseurs et les tranquillisants dans les années 60. Bon, ce qui fait que il y avait ce qui a été appelé après la psychiatrie biologique, qui considérait que la psychiatrie allait pouvoir être une spécialité médicale à part entière, et donc qui avait tendance à penser que ce qui était dit par la psychothérapie institutionnelle était assez sympa, mais était un petit peu superfétatoire. Bon, alors ce courant-là était en négociation avec le ministère. Il y a eu une circulaire dans les années 60 qui a créé le secteur. La circulaire a été réellement appliquée dans les années 70 pour diverses raisons. Et donc arrive 68. Donc il y a eu des livres importants comme Roger Gentis, aux éditions Maspero, Les murs de l'asile, qui est un brûlot pour dire que tout le monde s'en fout de la folie, des fous, et que ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a eu un certain nombre de groupes qui ont été créés, comme le GIA, groupe d'information asile, donc qui a duré entre 72 et 74, qui a écrit une charte des internés, avec un certain nombre d'internés. Alors, si vous allez sur un moteur de recherche, groupe d'information prison, il y a énormément de données, groupe d'information asile, il n'y a rien. Parce que groupe d'information prison a été animé par Foucault, et pas le groupe d'information asile. Et alors qu'il y avait une homonymie qui semblait, comme Foucault avait écrit une histoire de la folie à l'âge classique dans les années 60, beaucoup de gens se sont référés à Foucault, mais en fait, on ne trouve pas beaucoup de traces d'intervention concrète, militante de Foucault sur cette question de la folie, en fait, contrairement à ce qu'il a pu faire pour dans les prisons. Il y a une autre revue qui a été créée par des militants d'extrême gauche en 1973, des jeunes psychiatres et des infirmiers, qui s'appelait Garde-fou. Donc ça, l'idée était de populariser la lutte des travailleurs de la santé mentale et des psychiatrisés. Alors, ils cartonnaient tous azimuts. En 1976, il y a un numéro contre les psychiatres communistes. Bon, c'est-à-dire qu'ils étaient pour la Révolution, considérés que les psychiatres communistes, non sans raison, étaient des psychiatres comme d'autres, et pas spécialement plus avancés, pas toujours, vu que les idées d'un certain nombre de psychiatres communistes ont été largement diffusées. Alors, à Poitiers, il y a eu Tony Lenné. Ailleurs, il y avait quelqu'un qui s'appelait Lucien Bonafé. Donc Lucien Bonafé, à chaque fois qu'il parlait, disait qu'il avait rencontré des surréalistes quand il était jeune. C'était quand même des institutions vivantes. Enfin, surtout Lucien Bonafé. Donc c'est vrai que, bon, par rapport à des jeunes qui arrivaient, qui pensaient que la révolution était possible, en gros, ils pensaient que ceux qui étaient en place étaient du côté de l'ordre dominant. Et donc ils ont essayé de le démontrer. Donc ce qu'ils montraient, c'est... Ils ont montré les points aveugles de la critique portée par les psychiatres communistes. D'une part, pas de critique de la hiérarchie à laquelle ils appartenaient, dont ils étaient souvent des membres éminents. Et donc après, il y avait un certain nombre d'enquêtes qui montraient qu'il n'y avait pas de circulation de la parole de manière importante. Et puis aussi, par rapport aux critiques qui existaient à l'époque, le Parti communiste ne reprenait absolument pas la critique de la famille. Enfin, comme ça a été dit par Pudal hier, non seulement il ne la reprenait pas, mais en plus, il était tout à fait au niveau de la direction du Parti communiste, il pensait que c'était tout à fait un aventurisme tout à fait nihiliste qui se passait dans la critique de la famille et dans l'expansion des idées féministes. Après, la Borde a été critiquée aussi. Donc, il y a une série d'articles. Donc, après, ils interviewent. La Borde était célèbre pour accueillir plein de stagiaires qui n'étaient pas toujours tout à fait payés. Mais les gens étaient très contents d'aller là-bas, parce qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont passés à la Borde. C'était quand même un truc très célèbre. Et il y avait. Et Jean-Houry avait une aura extrêmement importante. Donc après, ils trouvaient des stagiaires qui étaient allés là-bas, qui disaient que de toute façon, quand Houry avait dit un truc, on ne pouvait plus causer, que Guattari, c'était son contremaître. Donc c'est-à-dire qu'il. Il cartonnait sur l'idée que la Borde se présentait comme une institution qui n'avait pas de rapport avec les autres, le champ psychiatrique. C'est comme une sorte d'extraterritorialité. Donc il essayait de démontrer que c'était faux. Ce qui n'a pas du tout plu à Jean-Houry. Donc il y a un article que j'ai retrouvé dans les années 95 où il disait que les gauchistes avaient foutu le bordel et qu'ils avaient détruit des trucs qui avaient été mis en place depuis les années 50, avec beaucoup de travail, de manière précautionneuse, et qu'il avait détesté cette période-là. Et pas son camarade Guattari, qui en est devenu de plus en plus célèbre. Alors, donc Guattari et Deleuze, en 72, l'anti-Oedipe. Alors, ça a été beaucoup cité, je ne suis pas sûr que ça ait été lu par tous ceux qui l'ont cité. C'est assez difficile à lire. Donc la revue Garde-fou, donc il considérait Guattari, c'était l'ami de Jean-Houry, donc voilà, c'était un réformiste comme un autre. Alors Guattari était, jusqu'à la fin de sa vie, c'était en lien avec le mouvement homosexuel, à la fin avec les écologistes, enfin, avec tout ce qui était nouveau, qui bougeait, il y allait. Les radios libres. Et eux, donc eux, ils disaient, oh, tout ça c'est qu'une manière de récupérer la contestation. À l'intérieur de cette revue Garde-Fou, en fait, il y avait même eux, ils n'étaient pas sur les mêmes positions. Il y avait des psychiatres lacaniens comme Jacques Assoun, qui est maintenant mort. Donc, ils considéraient que la psychanalyse avait apporté une manière d'écouter jusqu'au bout la folie, de l'interpréter. Et non plus de l'entendre à travers une grille de lecture qui faisait apparaître juste quelques symptômes à traiter. Et il y avait un courant de psychiatres, enfin de ce qu'on appelait le freudo-marxisme, qui essayait une synthèse entre Freud et Marx, avec l'idée que, donc, notamment avec la référence à Wilhelm Reich. Donc Wilhelm Reich, dans un de ses livres, il explique que quand les gens ils seront vraiment libérés sexuellement, quand ils baiseront tous leurs sous, ils seront nécessairement révolutionnaires. Qu'à l'inverse, il y a une structure caractérielle du fasciste, c'est le petit bourgeois qui baisse pas. Mais à l'époque, ça plaisait, hein, je vais vous dire. Ça faisait pas rire du tout. Pour diverses raisons, j'avais un peu de mal avec ce genre de théorie. Alors, il y avait ensuite parmi les... Alors parmi les gens qui étaient en pointe dans la critique, il y avait Robert Castel. Donc il écrit toujours, c'est quand même un grand sociologue, qui n'écrit plus à ma connaissance sur la psychiatrie du tout. Il sortit un livre aux éditions de Minuit qui s'appelait L'ordre psychiatrique en 1976, qui était dans la lignée d'un sociologue américain qui s'appelait Erving Goffman, considérant que l'institution psychiatrique était une institution totalitaire. Totalitaire au sens de... où elle allait prendre en charge, quand on y rentrait, tous les aspects de la vie étaient pris en charge. Et donc il y avait comme une... Ça peut être, dans le sens positif, pour ceux qui aiment ça, ça peut être comparé à un monastère, ça peut aussi être comparé à une prison. Castel considérait que la psychothérapie institutionnelle, c'était pas grand-chose, c'était une idéologie des psychiatres pour se donner bonne conscience. Et donc, il a insisté sur l'expérience de Battaglia en Italie, dont je vais vous parler tout à l'heure. Bon, il y avait donc à cette époque-là, il y avait tout un tas de groupes qui ont éphémères, qui ont existé. Il y avait une revue qui s'appelait Fracture, qui était intéressante, qui n'a pas duré très très longtemps. Et à cette époque-là, s'est créé le syndicat de la psychiatrie, qui existe toujours, donc qui est lié au syndicat de la médecine générale, qui défend un certain nombre de positions de principe avec une efficacité militante limitée. Enfin, je crois, à ma connaissance, ils ont eu quelques problèmes dans le renouvellement génération. Alors, les expériences étrangères qui ont été beaucoup citées à l'époque, il y a le travail de David Cooper. Et les travaux de trois langues, mais là je vais vous parler de David Cooper, son livre Psychiatrie, Antipsychiatrie, qui a été édité en France en 1970. Donc c'était l'idée que la schizophrénie aiguë, enfin ce qu'on pourrait appeler la schizophrénie aiguë des jeunes, était une production familiale. Donc comme ceux qui ont vu le film Family Life essaient de le montrer. Par rapport à Family Life, le film a été influencé par la lecture de Ronald Lang. Et donc, l'idée était qu'il fallait des institutions de petite taille où les jeunes qui étaient en train de délirer soient acceptés, il n'y aura pas de médicaments, prêts à vivre sur le temps qu'il faudrait pour leur permettre d'exprimer tout ce qui avait pu être nié par leur famille. Et donc, il y avait assez explicitement l'idée d'un rite de passage thérapeutique. Bon, le problème, c'est que c'est assez rare quoi, que ça se passe comme ça, même quand, en général, le côté rite de passage, c'est poétiquement très riche, mais cliniquement, un petit peu à côté de la plaque, malheureusement. Alors, en France, il y a une psychanalyste lacanienne, Maud Manoni, qui avait écrit Le psychiatre s'en fout de la psychanalyse en 1970, qui reprenait, qui trouvait que c'était extrêmement important ce que venait d'écrire David Cooper, qui considérait que c'était essentiel, qui considérait que c'était une remise en cause de l'ordre médical de manière tout à fait importante, et qui en passant disait que la psychothérapie institutionnelle, c'était elle aussi, comme Cassel, considérait que c'était une petite foutaise. Alors, à la même époque, il y a eu un courant italien qui s'appelle Psychiatria Democratica, dont le principal chef de file, en tout cas le plus connu, était Franco Basaglia. Il y en avait d'autres comme Giovanni Gervis. Je ne sais pas pourquoi je fais semblant de parler italien. Giovanni Gervis. C'était un groupe qui rassemblait environ 2000 médecins, psychologues, infirmiers, assistantes sociales, au mieux de sa forme. Un des livres fondateurs qui a été publié là aussi en 1970, c'est L'institution en négation. Alors, ça partait d'un constat, c'était l'état de délabrement des hôpitaux psychiatriques en Italie. Là, par rapport à ça, il y a eu un... à peu près tout le monde était d'accord pour dire que si les hôpitaux psychiatriques en France étaient critiquables, en Italie, c'était une catastrophe. Il y avait un état de délabrement extrêmement important et c'était sale. Donc ils ont dit, parler de comment soigner, c'est une question qui ne se pose pas actuellement. Et puis, qui se retrouve à l'hôpital psychiatrique? C'est les pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller en clinique, dans les cliniques privées, où là ils vont être mieux soignés, ni de suivre une cure psychanalytique. D'où un côté assez radical dans les choix, c'est-à-dire qu'il disait la psychanalyse, c'est simple. On ne dit pas que c'est sans intérêt, mais ce n'est pas notre sujet. Et donc l'accent sur comment faire sortir les personnes hospitalisées de ces lieux. Donc là, il disait que la question principale, la question politique, c'était celle de la ségrégation des malades mentaux. Il y avait une des formules qui avait été dite, c'était la liberté thérapeutique. Mais c'était l'idée d'une libération sociale qui serait thérapeutique. Bon. Pour comprendre que ce courant ait pu se développer, il faut se rappeler qu'il y a eu ce qu'on appelait le mérampant en Italie. Maintenant, on parle des brigades rouges et des groupes armés. Mais il a surtout existé un mouvement de masse extrêmement important, avec des groupes d'extrême gauche extrêmement vivants, qui sont autodissous pour un certain nombre d'ailleurs. Parmi les groupes les plus étonnants, il y avait l'Otta Continua. Et ces groupes-là étaient porteurs d'une critique. Il y avait tout un climat qui faisait qu'il y avait une critique. Le Parti communiste italien était à la direction de l'Assemblée de région et Basaglia était au Parti communiste italien. Donc il était possible de faire, dans certaines régions, il y avait une alliance entre ce groupe de psychiatres et des gestionnaires. Alors ils ont commencé dans une première ville. Il a tout à fait réussi à Trieste. Donc l'idée c'était de fermer le plus possible de pavillons psychiatriques et de laisser un certain nombre de pavillons pour ce qui est appelé les autres, donc des personnes qui ne pouvaient pas se réinsérer. Et en même temps, comme il y avait un débat dans la société, il y avait l'idée qu'il était possible de réinsérer des personnes qui avaient longtemps vécu à l'hôpital psychiatrique, il y a eu des essais, et il y a eu des choses qui ont fonctionné. Dans la revue Fracture en 1977, le syndicat majoritaire là-bas, la CGIL, qui était à peu près la CGT française, elle soutenait une coopérative qui avait été créée par des ex-internés. Donc il y a une enquête qui montrait ça. Et qui montrait que c'était non sans contradiction, parce que c'était le syndicat des infirmiers n'avait pas été une force motrice, plutôt une force de résistance par rapport à ça. L'enquête de Fracture montre aussi qu'en fait, c'est quand même une expérience qui était portée par le sommet. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de psychiatres extrêmement décidés. On ne peut pas dire qu'il y avait des centaines de personnes qui avaient envie de passer tout leur temps à cette affaire. Alors la critique qui a été faite de ce courant-là, c'était de dire que la folie était due à la société et donc de nier l'existence d'une psychopathologie. C'est ce qui n'est pas dans leurs écrits, et même où ils disent qu'il y a un problème par rapport à ça, où ils essayent d'articuler parfois les deux. Et un des chefs de file, Jarvis, disait que enfin, un des problèmes, c'était qu'il y avait le problème d'une certaine idéalisation du peuple qui faisait qu'il n'allait pas pouvoir tenir peut-être très longtemps. En tout cas, ça a tenu jusqu'à ce qu'il y ait... Il y a eu le vote en 1978 d'une loi qui a décidé de fermer les hôpitaux psychiatriques. Les conséquences ont été contrastées suivant les régions, parce que vous savez, l'Italie est un pays fédéral, et il y a eu des endroits où ça s'est bien passé, et des endroits où ça a été fait de manière administrative, donc de manière assez catastrophique. Le problème, c'est que ça a été voté à l'unanimité, cette loi. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui pensaient que c'était une bonne chose, puis il y avait ceux qui pensaient que ça allait faire des économies. Donc par rapport à ces trois courants, donc la psychothérapie institutionnelle, l'antipsychiatrie, bon, il y a aussi la psychanalyse lacanienne. Donc à l'époque, il y avait Lacan qui faisait son séminaire, qui a réussi le coup de force de récupérer un certain nombre de militants, de dirigeants militants maoïstes de la cause du peuple et de les transformer en militants de sa cause psychanalytique. Donc Lacan était... c'était un psychanalyste avec quelqu'un qui lisait Foucault, qui lisait Lévi-Strauss, qui lisait de la linguistique, qui avait lu Hegel, qui avait suivi le séminaire sur Hegel de Coget, etc. Donc c'était, il y avait un psychanalyste particulièrement ouvert, quoi. En tout cas, enfin, à la fois il y avait un côté fermé dans le côté organisationnel et à la fois une ouverture extrêmement importante par rapport à la recherche. Donc c'est, et ça irriguait ça. Et ce courant-là, par exemple, le courant de la psychanalyse, a irrigué aussi dans le mouvement féministe un courant qui s'appelait Psychépo, qui se référait au lacanisme. Je ne sais pas si Lacan y retrouvait ses petits, mais en tout cas, c'est ainsi. Donc voilà. Et ces courants-là, alors, sur leur avenir, l'antipsychiatrie anglaise, David Cooper, il n'a pas exercé très longtemps. C'était une sorte de poète maudit, mais il est mort jeune. Mais bon, la question de des thérapies familiales, on peut considérer qu'il y a quand même un lien avec sa critique. Et puis, faire attention à ce qui se passe quand des jeunes gens se mettent à délirer, écouter, faire très attention. Ne pas se presser pour prescrire, etc. Il faut quand même penser qu'il y a un lien avec avec ce qu'il avait proposé. Le courant de la psychothérapie institutionnelle a continué. Donc c'est en gros, c'est le vrai courant réformiste en France dans la psychiatrie. Donc ça en tant que thèse, il n'existe plus. Mais l'époque a changé. Quant à la psychanalyse lacanienne, bon, elle existe toujours. Mais son lien avec une critique sociale a à peu près disparu, sauf avec des groupes comme Pratique de la folie, avec Franck Chaumont. Et il y a aussi une revue qui s'appelle Chimère, qui a été créée par Félix Guattari, où il y a un certain nombre de psychiatres. Je ne comprends pas très bien moi, cette revue. Ils sont censés intervenir sur le champ social. Mais bon, on peut quand même penser qu'il y a... En gros, on peut être d'accord avec Roudinesco quand on dit que les psychanalystes s'intéressent à la psychanalyse et ne s'intéressent plus beaucoup aux autres champs de pensée. Voilà. Donc l'idée, c'est par rapport à ça, c'est de penser, c'est de voir que à la fois il y a eu des critiques virulentes tout à fait injustes, notamment des critiques de la psychothérapie institutionnelle, quand on les considérait comme des bourgeois qui étaient contents de leur statut sans plus. Mais en même temps, il y a eu des vrais débats qui ont été posés. Parmi les vrais débats, il y avait la question... Enfin, moi, je me rappelle que j'avais été à une conférence où le dirigeant du syndicat des psychiatres des hôpitaux, qui s'appelle Aimé, avait dit « Je suis marxiste, voire marxologue ». J'ai dit « Putain, marxologue, le con, c'est quand même pas tout le monde ». Et puis après, il disait des banalités à pleurer. Bon, donc il existait quand même quelque chose comme ça qui était un peu lourd, quoi. Donc je trouve qu'il serait intéressant. Alors autrement, à l'époque aussi, bon, il y avait des slogans qui n'était pas une grande finesse, mais c'était chasser le flic de votre tête. Bon, c'était censé être antipsychiatrique. Mais en tout cas, à l'époque, la question de ce qui se passait dans les hôpitaux psychiatriques, la question de la folie, la question de qui est fou, qui ne l'est pas, est-ce que nous ne sommes pas tous un peu fous, la republication d'Artaud et d'autres poètes fous, tout ça, ça a créé un air du temps assez important. Et je crois que c'est intéressant de relire pour voir que les souvenirs qu'on peut en avoir sont assez soit mythifiés, soit en fait très simplifiés, comme pour beaucoup de choses. Et que il serait important qu'à nouveau, c'est la question de la folie, la question de l'exclusion pour fait de folie ou pour autre chose, ça puisse être... Beaucoup de gens s'en saisissent, et le culot de s'en saisir comme ça se passait dans les années 70, y compris pour dire des bêtises, y compris en n'étant pas tout à fait compétent, et n'est-ce pas ça comme une affaire d'expert. Pour l'instant, c'est ce que je vous dirais.
Merci Pascal. On va passer aux questions. Je suppose qu'il y a un certain nombre de questions. Se lancer. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro aussi.
Donc, moi, Marcel, merci, c'est très très riche. Vous avez apporté énormément de choses. Puis je me rends compte que j'ai vieilli parce que je connaissais un certain nombre de personnes dont vous avez parlé. 68, c'est quand même l'année où naît la psychiatrie. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est l'année où se séparent la neurologie et la psychiatrie. Avant, on formait des neuropsychiatres sur le plan privé. Il y avait les médecins des hôpitaux psychiatriques. Et à partir de 68, la psychiatrie est individualisée. Donc la situation est tout à fait ambivalente. À la fois, on critique cette psychiatrie et elle s'individualise en tant que telle. Vous voulez en dire quelques mots ou pas?
je l'ai marqué dans mon article. Je n'ai pas oublié de en dire quelques mots. Non, parce que vous connaissez les débats qui ont lieu autour. Je sais que certaines personnes l'ont regretté.
Il ne faut pas me rappeler ça.
Non, mais parce que j'ai pas lu. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai commencé par faire le moteur de recherche. Il n'y avait rien quand même sur la psychiatrie. Enfin, ou alors c'est que d'habitude je trouve quand je fais le moteur de recherche, là il y avait à peu près rien. Et je crois que le problème c'est qu'il y a eu un changement d'époque et que il y a eu une discontinuité de génération, quelque chose. Mais en tout cas, c'est très difficile. Et l'antipsychiatrie, ça se trouve dans les livres rares. Hein, ça se trouve pas en librairie. Donc voilà, je ne sais pas, j'avais pas lu à l'époque, parce que quand j'ai commencé à être interne en psychiatrie, l'affaire paraissait faite, et je ne me rappelle pas avoir entendu parler de débat. Alors après, moi ce que j'ai su par rapport un peu plus concrètement là-dessus, je suis allé une fois à Saint-Alban, et donc j'étais vu, Jean-Houry, très beau, tout ça. Mais bon.
Psychiatrie institutionnelle, c'est encore quelque chose qui existe, et ça veut dire faire en sorte que l'institution soit soignante en elle-même, les murs, ceux qui y œuvrent, et les patients. Et c'était une très belle idée, hein, due à des psychiatres communistes et à des psychiatres qui ne l'étaient pas. Il y avait une idée aussi, il y avait le constat que les patients qui étaient sortis d'asile pendant la guerre avaient été capables de vivre d'une façon tout à fait indépendante. Hein. Donc ça rejoint Toskeyev, ça rejoint quelqu'un que vous avez cité en l'associant sur la liste. Il n'était pas que ça, il avait un enthousiasme bon à fait. Hein. Il avait un enthousiasme majeur. Vous avez parlé plusieurs fois du communisme. Communisme et psychanalyse. Où est-ce qu'on en était à cette époque et où est-ce qu'on en est maintenant? Moi, je pourrais poser un tas de questions. Il ne faut pas du tout que je monopolise la parole.
Oui, les travaux sur... Alors, par contre, ce que j'ai vu sortir, c'est le livre L'extermination douce de Max Lafon, puis un certain nombre de travaux, et Bonafé reprenant ça. Et donc, on considère qu'il y a 40 000 personnes qui sont mortes dans les hôpitaux psychiatriques, non pas par une décision politique, comme ça a pu être fait dans le Reich, mais parce qu'ils ont crevé de faim. Et bon, Bonafé a confirmé le chiffre, et Assez récemment, il y a une historienne, j'ai vu ça dans la formation psychiatrique, qui a sorti un livre, et c'est à peu près les mêmes chiffres, hein, même à très peu de choses près. C'est un truc qui est assez troublant par rapport à cette période, c'est que il y avait une idée qui était devenue populaire que pendant la guerre, face à une situation de pénurie, les gens, comme s'ils allaient chercher au fond d'eux-mêmes des ressources pour survivre. Donc il y avait moins de personnes qui avaient des troubles mentaux. Et puis un jour, on apprend qu'il y en avait moins parce qu'ils étaient morts de faim. Donc je dois dire que moi, ça m'a trouvé ça, ça m'avait un peu traumatisé. Et donc à la même, bon, mais bon, là, je ne sais pas s'il y a encore des historiens qui sont là comme hier, mais c'est comme la question des camps d'extermination, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on commence par dire que ça existait, après, on montre l'importance, puis après, il y a des livres à n'en plus finir qui détaillent, alors que dans les années 70, il y avait les jeunes juifs dont les parents avaient été déportés, n'entendaient pas parler de ça en famille, à quelques exceptions près, parce qu'on en parlait, parce que ça allait de soi qu'il fallait pas en parler, qu'il fallait pouvoir continuer à vivre. Donc les choses ont changé après. Voilà. Donc par rapport je crois aussi par rapport à un optimisme qui a pu exister dans les années 70 et qui a été très très mesuré ensuite, il y a des choses comme ça par rapport à des travaux sur la. Bon, après, puis aussi sur la position, sur la résistance, etc. Sur le Parti communiste et la psychanalyse, on sait qu'il y a dans la Nouvelle Critique, il y a un article célèbre qui avait dénoncé la psychanalyse comme science bourgeoise à la fin des années 50, avec des gens qui sont devenus après des dirigeants de l'International Psychanalytique Association. Après, ils ont dit qu'en fait, ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'ils voulaient dénoncer la psychanalyse américaine, donc ils étaient comme Lacan, ce qui était manifestement de mauvaise foi. Mais bon, c'était comme ça l'idée. C'était l'idée qui, ce qui était vrai, c'est qu'il y avait une psychanalyse américaine qui était psychologie du moi, qui était une idée de réadaptation, de non-remise en cause de la société, de considérer que la société est comme elle est, et qu'il faut être pragmatique, et qu'il faut arriver à vivre là-dedans, et que c'est le rôle du psy, y compris du psychanalyste, d'arriver à faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Donc ils ont dit que c'était pour critiquer ça. Le texte était quand même plus assez violent, quoi. Et c'était un texte sur demande de la direction du Parti communiste. Après, bon, la plupart des gens ont dit que c'était une connerie. Hein. Enfin, ceux qui l'avaient écrit, ceux qui l'avaient lu aussi.
D'autres questions ? Alors moi, j'en ai peut-être une, mais... Alors je ne sais pas si elle est très pertinente, mais en tout cas, la question que je me pose, il me semble en tout cas que la psychanalyse lacanienne a fortement perdu sa dimension critique progressivement. En tout cas, c'est ce qui me semble, hein, de mon point de vue. Tu me diras si je me trompe. Et si c'est bien le cas, comment est-ce que toi, tu l'interprètes ? Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ou le comprendre ?
Quand j'étais jeune, on me disait que j'étais très à gauche parce que j'étais jeune, et quand je serais vieux, je serais à droite comme tout le monde. Bah, c'est quand même pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour moi, mais ça a été vrai pour beaucoup de monde. Et y compris des psychanalystes lacaniens. Je crois dans l'histoire, bon, là, je suis vraiment pas spécialiste, mais enfin, ce qui est clair, c'est que ils sont franchement pas. Ils n'en ont rien à foutre des questions sociales, quoi, globalement. Le plus à gauche, c'est comme Gérard Miller que vous voyez à la télé. Bon, c'est pour un type qui a fait Normal Sup, c'est quand même pas une pensée politique extrêmement élaborée, quoi. Il se fatigue pas avec ça. Hein. Bon, Gérard Miller avait écrit un livre qui s'appelait « Pousse au jouir du maréchal Pétain » quand il était jeune, qui était un livre sur pour expliquer la jouissance liée à la soumission des pétinistes. Bon, je trouve que c'est un livre assez intéressant, enfin très intéressant. Il passe en livre de poche, enfin il était un livre assez important. Après, il y avait beaucoup de livres. Moi, j'ai entendu un psychanalyste lacanien il cite comme sociologue Lipkowski, l'ère du vide, ce qui a quand même 30 ans. Et puis c'est pas un sociologue, et puis c'est un bouquin bâclé. Donc Alors évidemment, après, c'est pas trop compliqué d'articuler n'importe quoi avec ça, parce qu'il n'y a rien. Voilà. Donc c'est... Autrement, dans le groupe ami des Lacaniens, il y a Philippe Solers, donc c'est le plus à gauche des amis. Et puis il y a Bernard-Henri Lévy, donc qui est très à gauche, puisque c'est un ami de Ségolène Royal. Donc il paraît même qu'il l'inspire. Donc c'est dire là, c'est un des exemples de plus de la pensée de Bernard-Henri Lévy. Donc voilà, ils s'aiment ces gens-là. Voilà. Ils s'aiment, ils se connaissent, ils ont fait Normasup ensemble, ils n'ont pas rompu. Et après, il y a, par rapport à ce groupe, alors par rapport aux maoïstes de l'école normale supérieure, il n'y a pas que des Brels, hein, il y a quelqu'un comme Badiou, qui apparemment maintenant apparaît comme le plus grand philosophe français, qui va aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'appelle « De quoi Sarkozy est-il le nom ?», qui était à l'école de la cause freudienne hein, pendant longtemps, qui est à Vincennes, qui est maintenant à l'école normale supérieure, qui est remarquable. Pas sûr que ça soit un démocrate, mais en tout cas, c'est un esprit remarquable. Donc voilà, je crois que c'est simplement ça. Ils ont négligé la question, c'était plus leur problème. Et quand ils font un retour ici et là pour dire deux, trois trucs, bah c'est chacun à Miller a dit que ça serait bien que Sarkozy fasse trois séances de psychanalyse parce qu'il était un peu énervé. Bon, c'est un peu triste, quoi. En tout cas, chacun Milan est un type extrêmement intelligent. Donc voilà, quand il s'intéresse à la politique, c'est pour jouer. Quoi. Ça me paraît plus sérieux que ça. Hein. En tout cas, les enjeux me paraissent mettre en. Vu que ça concerne la vie de beaucoup de gens, ça me paraît pas bien de faire ça. Après, dans les psychanalyses non lacaniens, dès les années. Après 68, il y avait un livre qui s'appelait La société contestationnaire, qui avait été écrit par des gens de la société psychanalytique de Paris, qui disaient que c'était rien que des gens qui seraient. Les contestataires, l'affaire était plus compliquée, c'était la révolte contre le père, qu'il n'y avait vraiment rien à en tirer. Il avait pris un pseudonyme pour écrire ça. Il n'y avait pas tort, parce que c'était très, 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 très bête. À l'époque, Lacan, la manière dont il s'adressait au milieu contestataire, il s'est pointé à Vincennes, ce qui n'était quand même pas évident, il avait proposé ce qu'il a appelé les quatre discours. Il opposait quatre discours qui... en fait, c'était pour introduire la spécificité du discours psychanalytique. Il disait que les quatre discours, c'était le discours du maître. Après, il a renommé ça discours du capitaliste en disant que c'est autre chose. En gros, c'est le discours du maître, discours dominant. Le discours de l'université, donc un discours où c'est le savoir qui est au poste de commande. Et il considérait que l'Union soviétique, avec la place qu'a donnée aux ingénieurs, avec l'idée que c'était la fin de l'histoire, que le marxisme était une science. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, ça se disait beaucoup, que le marxisme était scientifique. Un des grands inspirateurs d'un des groupes maoïstes français qui s'appelait Althusser, qui était au Parti communiste, il faisait en sorte que ça soit une science, quoi, le marxisme. Il coupait ce qui dépassait pour que ça soit plus scientifique. Donc, discours du maître, discours de l'université, le discours hystérique. Freud, ça a été les premiers travaux de Freud, c'est la femme hystérique, celle qui avait avec ses symptômes. Le médecin n'y comprend rien, et donc Freud il écoute, et donc il y a beaucoup de textes qui ont été écrits sur l'hystérie féminine, sur l'aspect révolte, contestation et de interpellation du grand autre, et notamment du discours dominant. Donc il considérait que les discours contestataires c'était des variantes d'un discours hystérique. Et par rapport à ces trois discours, il disait qu'il y avait un discours qui devait se distinguer, et c'était le discours du psychanalyste. Voilà. Donc par rapport à ça, il y a eu notamment ça, il y a eu un ensemble de choses où il a dit, je prends en compte ce que vous dites que vous voulez tout changer, etc. Et autrement, il y a un moment où il est intervenu à Vincennes, ça a été, bon, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y avait un pont qui se pointait à Vincennes, il y avait le bordel. À un moment donné, il leur a dit, vous voulez un maître et vous l'aurez. Alors après, que ça fait partie de ces phrases énigmatiques. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Apparemment, il a voulu dire que le désordre peut pas, ça ne dure jamais longtemps et qu'il y a toujours un rétablissement de l'ordre. Alors, après, rien ne dit. En tout cas, lui, il proposait en tout cas un ordre intellectuel assez important. Mais bon, la force de Lacan, comme la force de Foucault, c'était qu'ils ont été interpellés par cette floraison de mouvement et qu'ils ont essayé d'en dire quelque chose. Et Sartre aussi, évidemment. Un certain nombre de grands intellectuels. Quoi. Et alors, je pense que si il y avait toujours eu des mouvements comme ça, ça se passerait différemment actuellement. Quoi. Enfin, moi, par rapport au mouvement des idées, par exemple, moi, avant 90, je ne savais pas que Bourdieu était nécessaire pour un savoir contestataire. J'avais, par rapport à des choses qui sont non dites et pas réfléchies, moi, je ne savais rien sur Foucault, sur Foucault aussi. Je ne savais pas grand-chose, mais sur Bourdieu, je ne savais pas du tout. Et quand il s'est mis à intervenir dans le champ social en 95, c'était une découverte de... Parce qu'avant, il était très, très réticent par rapport au mouvement de critique sociale. Donc lui, il a fait un chemin dans ce sens-là, et d'autres ont fait un chemin dans le sens. Mais peut-être qu'il y a des groupes que je ne connais pas qui existent, mais bon, je ne crois pas. Je pense que j'aurais fini par tomber dessus en cherchant.
C'est dans les années 80 où il y a eu un statut hospitalier avec un tiers-temps pour la formation et tout ça, c'est les années 80.
Et ça, c'est le statut. La naissance de la profession elle-même, je ne suis pas capable de vous le dire. Peut-être. Est-ce que vous êtes capable de le dire?
Non, je ne sais pas. C'est récent.
Non, ce n'est pas si récent que ça. Quand j'étais à l'IR, c'est assez vieux, il y avait déjà des psychologues. Toujours connu des psychologues à l'hôpital. Avec la licence et tout ça. Alors, ça veut dire quand même que j'ai pris un poste de interne, je ne me pose pas bien compte, c'est un 65. Donc, il y avait des psychologues, absolument. Et des psychologues, par contre, il y a une évolution de ce métier, de ces pratiques. Hein, donc, oui. Le psychologue était beaucoup plus quelqu'un qui testait à un certain moment sur le plan donc neuropsychologique, et la profession donc a évolué vers une prise en charge psychologique, etc. Et donc relationnel vers des formations différentes. Mais les psychologues existaient.
Oui, j'ai pas entendu dire ça. Moi, j'ai entendu dire que justement, ils voulaient sortir du carcan du médical.
Ah oui. Donc le psychologue était à l'hôpital sous la coupe, si j'ose dire. Donc il y avait à cette époque, il n'y avait pas de psychiatre, il y avait des médecins des hôpitaux psychiatriques et il y avait des neuropsychiatres avant 68. C'est pour ça que cette création de la psychiatrie en tant que telle, c'est quelque chose d'important. Et il est sûr que la place du psychologue à l'hôpital était sous l'autorité du chef de service. Ensuite, il y a eu une évolution absolument énorme par rapport à ça. Et il y a maintenant, enfin, c'est une chose dont est toujours en jeu d'ailleurs, hein, donc parce qu'il y a maintenant différents pouvoirs. Le psychologue veut, mais plus maintenant, de moins en moins, mais quasiment plus, parce qu'il y a des psychologues dans la salle, vous pouvez le dire mieux que moi. Moi, je suis. Alors.
Mais j'en sais rien.
Donc, les psychologues se sont individualisés par rapport au champ médical.
Mais l'individualisation n'est quasiment pas possible. Soit on n'arrive pas à vivre parce qu'on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc.
Non, mais ça, c'est
la condition de survie, c'est de s'inscrire dans l'institution, quoi, soit sociale. qui, à l'origine, il me semble, avait des inspirations justement de se sortir du champ social, enfin, du contrôle social et du contrôle médical.
Là, vous faites allusion à un gros problème et un questionnement, ouais. Le remboursement du soin donné par le psychologue.
Justement, dans les années 68, il me semble que c'était une volonté du courant psychanalytique porté par les psychologues, hein, entre autres, enfin, que c'était un refus de leur part.
Il doit y avoir quelque chose là-dessus dans le livre de Roudinesco, Pourquoi la psychanalyse, où elle fait un historique. Et notamment, où elle dit que, un truc qui n'est pas dit en général, c'est que la plupart des psychanalystes, sont déclarés comme tels, sont des psychologues et des psychologues qui travaillent en institution, au moins à temps partiel. Donc elle doit reprendre un historique de ça. C'est une historienne, d'ailleurs, Roudinesco. Dans Pourquoi la psychanalyse, je crois, ouais. Il y a quelque chose à ce sujet-là.
Il y a deux mouvements un petit peu distincts. On a peut-être vu une certaine diminution des formations analytiques des médecins et une augmentation des formations analytiques des psychologues.
Ouais.
Ça demande à être déterminé.
D'accord. Bah, oui, c'est ce que dit Roudinesco. Enfin, j'ai ajouté quelque chose sur la manière dont j'ai pu parler pourrait sembler dire que maintenant il n'y a plus aucun, il se passe plus rien comme débat d'idées dans le champ de la psychiatrie, ce qui n'est pas vrai. Il y a eu le courant pas de zéro de conduite en réponse, donc 2005, il y a eu un rapport de l'Inserm qui a dit que qui disait que qui a assimilé les troubles de conduite des enfants à des troubles psychopathologiques et il fallait les dépister le plus tôt possible. Et il y a eu un mouvement qui a été initié par des médecins de PMI, des pédopsychiatres, des psychologues, enfin tout un tas de personnes. Et c'était jusqu'à 150 000 personnes qui ont signé cet appel. Donc le truc, c'était pas de zéro de conduite avant l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'il fallait dépister très tôt, parce qu'on pouvait arriver à avoir des troubles qui de fait annonçaient l'agitation, puis la prédélinquance, puis la délinquance. C'était dit à peu près explicitement. Et il y a eu des psychiatres de grand renom, des professeurs de psychiatrie de grand renom, psychiatres en photo juvénile, comme Philippe Jamais, qui l'ont défendu bec et ongle. Et voilà, donc il y a eu un débat extrêmement important et qui a eu un effet. Donc il y a une volonté, ça paraît quand même pas. Il y a ça et d'autres choses qui semblent montrer qu'il y a une volonté de contrôle social extrêmement importante et qui vont s'en donner les moyens avec des dépistages. Donc ce truc là, c'est comme diriger vers les. Ça va de pair avec ce que les sociologues repèrent comme étant une véritable dénonciation de nouvelles classes dangereuses. Donc il y a l'idée que génétiquement, non seulement il y en a qui ne sont pas doués, mais en plus, c'est des petits fumiers. Donc c'est quand même assez dégueulasse. Et voilà. Il y a ça. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu plusieurs mouvements importants. Et alors du coup, ces mouvements-là, c'est par rapport à un contrôle au plus près de la personne. C'est-à-dire que et donc il y a quelque chose qui réapparaît dans les textes, et donc c'est la notion de biopouvoir telle qu'elle avait été définie par Michel Foucault. C'est-à-dire que il y a les disciplines comme qui avaient été décrites à l'armée, notamment l'armée et les grandes foules qui étaient domestiquées. Et puis après, il y a un biopouvoir où c'est l'idée que les gens ils vont accepter des méthodes de domination extrêmement fines. Et là, il y a eu des déclarations de Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. C'est son truc, hein, quand même. Ça existe aussi aux États-Unis. Donc, comme ça, je crois que tout le monde sait qu'aux États-Unis, il y a 1% de la population qui est en prison. Et si on regarde dans la population noire, c'est un pourcentage beaucoup plus important. Donc voilà, il y a des... Ce qui est d'actualité, c'est quelque chose par rapport à la répression, une répression à la fois brutale, l'emprisonnement, et puis tout un tas de techniques pour essayer de dire qu'il va falloir fliquer les gens de la manière la plus fine possible. Et donc là, il y a eu des mouvements. Il y a eu un truc sur une conférence de presse qui avait associé des syndicats de psychiatres, des organisations de familles, et puis je ne sais plus qui, par rapport à un rapport qui parlait de la dangerosité des malades mentaux. Comme ça allait de soi, qu'il y a une qu'on était malade mental, donc dangereux. Alors toutes les enquêtes montrent que c'est faux. Le problème des gens, des malades mentaux, c'est surtout qu'ils font rien. C'est pas qu'ils ont envie de cogner le voisin. En gros. On peut dire plus finement, je crois. Oui.
Pardon, je reprends le micro. Boissel, par rapport à ce que vous avez dit sur jamais, je crois que jamais n'a jamais été aussi précis que vous l'avez dit.
Hein?
Comment, vous l'avez entendu à la télévision? Donc moi, je l'ai rencontré, je lui en ai parlé, et je n'ai pas cette notion-là, quand même. Hein? Peut-être qu'il a changé, oui. Mais le problème est difficile, là. Le problème pour nous, psychiatres, c'est quand même, et vous avez dit lors de vos conférences qu'il y avait une certaine naïveté quand on laissait les enfants se décompenser, quand même, hein? Vous avez eu l'honnêteté de le dire. Hein? Donc le problème, on est confronté donc à un choix, à savoir que l'on sait que lorsque l'on va traiter le plus rapidement possible, le pronostic sera meilleur. Alors, à partir de quand commencer? Donc, certains vont jusqu'à des traitements préventifs, veulent s'inscrire dans un schéma de traitement préventif. Ça, je crois qu'il ne faut pas y aller. Mais le problème est un problème quand même extrêmement difficile. Moi, je ne vais pas, hein, je n'accepte pas cette idée de traitement préventif. Mais à partir de quel moment traiter, c'est quelque chose de difficile. Hein, c'est quelque chose de difficile. Et... Ah oui, non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Mais je crois qu'il y a un consensus contre cela. Maintenant, des pays tout à fait démocratiques tels que l'Australie, etc., ont des modes de pensée un petit peu différents. Hein? Donc, point d'interrogation par rapport à ça. Donc, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, et on peut le citer là. Le temps use l'erreur et polie la vérité. 68 et Lynn Cooper, ce sont aussi des personnes qui ont beaucoup responsabilisé les familles, et notamment les parents de schizophrènes. Où en est-on maintenant, hein? Je crois qu'on peut s'interroger par rapport à tout ça. Hein? Vous avez dit que la psychanalyse veut écouter jusqu'au bout la folie. En êtes-vous sûr? Quelle est la position de la psychanalyse par rapport à la psychose, qui est peut-être la véritable folie?
En tout cas, il y a... La thèse de Lacan, c'était quand même sur la paranoïa. Le texte d'une question préliminaire au traitement des psychoses était comme un des textes fondateurs. Il y a eu un certain nombre de gens. Maud Manoni s'occupait de personnes psychotiques.
Non, mais je suis d'accord, mais quel pourcentage?
Je ne sais pas, ça. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais trouvé... Enfin, un des textes qui me paraissait... Je crois que c'est dans le texte d'une question préliminaire... de Lacan, il dit il y a des gens qui entendent des voix, et donc on apprenait que c'était un trouble de la perception. Et c'était quand même aussi un grand clinicien classique, Lacan, c'est qu'il écrit quelque part que si c'est un trouble de la perception, en gros, les gens regardent autour d'eux si quand il y a des insultes. Pourquoi ils sont tout seuls à entendre les insultes, ils ne regardent pas les autres. Donc c'est manifestement, c'est à la fois, il y a un côté de réalité, de réel, des faits de réel, de l'hallucination, et en même temps, il n'y a pas de doute sur le fait que la conscience, que c'est quelque chose qui leur est propre. Et ça, c'est par rapport à la psychiatrie, enfin, en tout cas par rapport au traité de Henriet, je trouvais ça extrêmement important. Enfin, après, il a dit d'autres choses, hein, sur la manière de traiter. Je sais qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui s'est coltiné à ça, mais il y a dans un certain nombre d'institutions, quand même, il y en a qui y sont.
Quel traitement réclamait Lang en cas de la survenue chez lui d'une mélancolie?
Je croyais que c'était l'électrochoc, non?
Oui. Donc il l'a écrit, il a eu l'honnêteté de l'écrire. Donc les choses sont extrêmement complexes. Et la sismothérapie ou l'électrochoc, ce n'est pas quelque chose qu'on abandonne, c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus dans des conditions tout à fait différentes de celles qui existaient auparavant, mais c'est réellement une thérapeutique qui a sa justification sur tous les plans, médical, éthique et tout ça, enfin, me semble-t-il. On peut en discuter très longtemps, mais on fait de plus en plus de sismothérapie. Oui. Et l'antipsychiatre Leng réclamait une sismothérapie.
Oui. Sur la question de la sismothérapie, moi, je suis sûr que ça a été extrêmement efficace sur des personnes que j'ai connues. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus.
Moi, j'ai quelques interrogations en vrac, comme ça. Je ne suis pas du tout psychanalyste ou psycho. Hein. Interrogation, quels ont été les progrès depuis 68 hein. J'ai entendu dire que dans les années 90, là, on ne pouvait plus enfermer... une personne en dépit de sa volonté. Donc, quel est le traitement par rapport à des gens qui présentent un état pathologique ou, entre guillemets, les déviants ? Quelle est votre critique que vous pouvez faire des projets des hôpitaux-prisons hein, de M. Sarkozy hein, parce que ça, c'est un projet aussi. Et également, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'hôpital psychiatrique, c'est une sorte de prison, une façon de gérer justement les gens indésirables ?
Alors, à ma connaissance, actuellement, les personnes qui sont hospitalisées contre leur consentement, ça représente autour de 10% maintenant. Dans les années 70, c'était 90%. Donc on ne peut pas dire que c'est... Ça a évolué. Après, la question se pose vraiment très différemment parce que y a les directions des hôpitaux ont un pouvoir affirmé et que ce soit des hôpitaux psychiatriques ou un autre hôpital, c'est considéré comme la même manière. C'est-à-dire que la question, ils suppriment, il y a question de c'est-à-dire en chirurgie, il y a des chirurgiens, ils disent j'ai besoin de temps de lit, on leur dit rien à foutre, je vous en ferme trois. Donc, si vous avez déjà été, pour ceux qui ont été opérés, on commence par vous dire que c'est vachement sympa l'hôpital, d'être hospitalisé sur la journée. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous avez intérêt à être, si vous trouvez ça un peu rude d'être opéré dans la journée, c'est à vous de vous démerder pour trouver. Si vous avez besoin d'être un peu coucouné le soir. Quoi. Parce que de toute façon, vous êtes dehors. L'hôpital psychiatrique, hein, les hôpitaux. La durée d'hospitalisation a beaucoup diminué. Maintenant, donc, tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut supprimer des lits. Il y a eu beaucoup de lits supprimés. Et à ma connaissance, l'effet, c'est que quand quelqu'un est hospitalisé et va bien, c'est pas compliqué. S'il dit, dites donc, là, je me sens mieux. Trois jours après, il peut être dehors. Hein. Faut vérifier, mais... Enfin, moi, j'en ai vu comme ça. Donc, la question, c'est plutôt. Alors, Bonafé, il avait parlé de l'externement arbitraire. C'est-à-dire qu'il y a eu longtemps. La question des internements arbitraires a été sans doute surestimée, mais ça existait. Mais là, c'est l'externement arbitraire. Il y a des gens, ils sont perdus. Et c'est. Il y a. Parce que. Donc, là. Dans les différentes facettes de l'asile, il y avait un côté d'asile au sens propre, un asile où on peut se reposer, où on est un peu à l'abri. Mais là, il y a quand même, pour un directeur d'hôpital qui est digne de ce nom, ça ne doit plus exister, c'est une ringardise qui n'existe plus. Je ne suis pas sûr que ce soit une évolution qui soit tout à fait satisfaisante. Et alors, ici... dans le cadre de l'ASPES, moi j'ai vu quelqu'un qui racontait ça, il s'appelle Roland, il est à Lille, c'est un ancien gauchiste vrai de vrai, maintenant il dirige son service, il est à l'Organisation mondiale, qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, il explique, l'affaire n'est pas compliquée, le délire avec les nouveaux antipsychotiques, je vous règle ça, la question c'est comment être inséré dans la société. Bon. Il dit il n'existe plus de service fermé chez moi. C'est le service fermé, c'est toujours terrifiant à voir. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens, quand c'est pas fermé, ils vont se tuer. Quand même. C'est pour ça que des fois, les portes sont fermées. Et c'est quand même extrêmement déplaisant de voir quelqu'un et de revoir une heure après sous forme de cadavre. Quoi. Donc, par rapport à ça, je crois que c'est difficile. Je crois que l'idée, on peut tout ouvrir,
Ça marche que si on n'en a rien à foutre que le nombre de suicides explose. Je crois que c'est... Et c'est pas le souci des... Et dans le souci administratif, le souci, c'est de faire de l'argent et c'est les critères du privé. Donc, ils vont trouver ce qui peut être rentable. Donc, voilà, je crois que le champ est totalement différent et que la critique est totalement autre. Alors, les références qu'on peut faire à ça, c'est par rapport aux questions... Enfin, ceux qui travaillent dessus, c'est la question du biopouvoir de Foucault, mais sauf que c'est mis un peu à toutes les sauces. Mais bon, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça, quoi. En gros, c'est vous sortez, mais et puis après mettre en place un Big Brother pour surveiller tout le monde, quoi. L'entrepanation, ça n'existe plus, et là pour le coup, c'est... Non, chez nous en France, c'est oui. Non, l'entrepanation, non. Sur les électrochocs, donc il existe des personnes qui étaient extrêmement mal, qui ont été mieux après des électrochocs. Je peux, voilà. Alors, on peut trouver. Alors après, l'image terrifiante, c'était les yeux hagards, avoir perdu la mémoire, etc. L'idée, quand même, c'était que quand des gens ils pensent qu'ils sont pires qu'une merde et qu'il va falloir qu'ils se liquident eux-mêmes et qu'ils pensent à sa longueur de journée, qu'il y a un truc qui fasse qu'ils pensent plus ça, qu'il y a une rupture dans ce qu'ils pensent. Eh ben ça peut aider, quoi. C'est pas d'une grande finesse, c'est quasiment chirurgical comme idée, mais ça a une efficacité assez importante. Oui, il me semble que c'est pour les cas extrêmes.
Non, moi, je vais rebondir sur la trépanation. La trépanation, c'est la lobotomie. Et à quel point le savoir est relatif. Quelqu'un qui s'appelle Edgar Moniz a eu le prix Nobel pour cette technique. Et à distance, voyez à quel point les choses peuvent évoluer. Hein, Edgar Moniz a eu le prix Nobel pour des explorations fonctionnelles et pour la lobotomie dans la schizophrénie. Maintenant, si on envisage cela, on est un criminel. Ça remonte à 50 ans. Ce n'est pas vieux. Hein. Je me suis amusé à interroger Jean Bernard là-dessus. Il n'a pas répondu. Hein, donc à quel point la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et nous faisons sans doute les mêmes conneries actuellement. Hein, donc, mais soyons modestes.
Alexis Carrel a eu aussi le prix Nobel et il avait proposé dans un écrit des années 30 de gazer les vies inutiles, et ce que Adolf Hitler a trouvé une idée intéressante. Il faut se méfier des médecins, comme de toutes les professions, quand elles n'ont pas de contre-pouvoir. Voilà. Comme de toutes les professions, comme des professeurs, etc. Quand il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc l'idée, c'est que, enfin, voilà. C'est vrai que toutes les vérités sont relatives, mais il faudrait qu'elles soient discutées. Il faudrait qu'il y ait une information. Il faudrait que... Voilà. Il ne faut pas qu'on soit transformé en chose à gérer par les bureaucrates, quoi.
On parlera de l'ECT ou de la SISMO en septembre prochain avec le docteur Lévy et le docteur Rose Reinhardt dans une conférence organisée par l'association Argos 2001, ici même.
Il y en avait déjà une il y a quelques années que j'avais faite ici, à l'Espace Mendès France. Mais c'est bien d'en reparler. Non, il faut démystifier les choses. Soyons modestes, la sismothérapie, on en a fait après la guerre, on l'a énormément critiqué, puis ça revient. Que dira-t-on demain ?
J'ai un seul exemple. En fait, Pascal en a cité. Une de nos amies patientes avait eu des ECT dans une clinique privée il y a 7-8 ans. Elle en redemandait aujourd'hui parce qu'elle s'était sentie très bien et beaucoup mieux pendant 2 ans après ses ECT. Et depuis elle errait de dépression en phase maniaque. Et là, elle est retournée à l'hôpital. Elle est allée voir le docteur Lévy. Je ne sais pas si ça s'est fait. Mais en tout cas, c'est des patients qui n'ont pas un mauvais souvenir de ça.
Oui. Enfin, par rapport à votre question, c'est que souvent, il y a association entre les électrochocs et la lobotomie. Parce qu'avec le film Volotune d'Annie Coucou, on lui fait l'électrochoc, puis après, on lui fait une lobotomie. On imagine qu'on peut le tuer à la fin, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, quoi. Et les effets des électrochocs sont réversibles. C'est-à-dire que à distance, les gens, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne se rappellent pas de ce qui s'est passé pendant quelques jours. Hein. Mais c'est pas plus. Et ils n'ont pas perdu des capacités intellectuelles, des choses comme ça. Comme ça a été voilà, quand on mélange avec d'autres choses, c'est par rapport à ça qu'il y a un problème. Et autrement, par rapport au geste qui était assez effrayant filmé, mais maintenant il y a des techniques qui font qu'il n'y a plus les contractures musculaires qui existaient auparavant, qui fait que c'est pas si impressionnant que ça à voir.
Moi, je voulais simplement dire que, en tant que vieille poitevine, la critique d'Alex Lenné ne pouvait que nous ébranler, surtout qu'elle était un peu superficielle, anecdotique. Mais ce n'était pas pour ça que je voulais parler. Je voulais dire que le problème de l'hôpital, de la critique en ce moment, de l'hôpital psychiatrique, moi je travaille dans un établissement d'handicapés, le CART de Poitiers, qui est né en 68, hein, qui a été une création pour sortir les handicapés et les fous de l'asile. Hein, ça, c'était ça l'argument de la naissance. Et on travaille avec l'hôpital psychiatrique et actuellement, on rencontre maintenant des infirmiers qui n'ont pas eu de formation psychiatrique. Comme il y a beaucoup de psychiatres dans la salle ou de gens de l'hôpital, ça m'effraie. C'est-à-dire que vous avez parlé du pouvoir du médecin, vous avez parlé, à l'époque de l'antipsychiatrie, on a beaucoup critiqué le rôle du médecin, et qu'est-ce que ça va donner avec des infirmiers qui n'auront pas été formés à la psychiatrie et encore, enfin, ça me semble important comme question et grave de mon point de vue.
Moi, j'ajouterais que les gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, c'est quand même une forme d'atteinte psychiatrique. Alors, la manière dont on s'en occupe, c'est encore pire que tout.
Moi, je voulais juste apporter un témoignage par rapport à l'amendement à Coyer, celui qui fait que le statut de psychothérapeute ne peut être utilisé que par des médecins ou des psychologues ayant suivi telle ou telle formation. Donc, je faisais partie du syndicat national des psychologues et on nous disait qu'il fallait être contre l'amendement, mais pas contre Accoyer, parce qu'Accoyer était présumé occuper un poste important à l'UMP, quoi. Donc, enfin, je voulais vous apporter un témoignage du comment fonctionnent un petit peu, finalement, les lois et les choses, et pourquoi pas les domaines scientifiques aussi, quoi. Voilà, c'est...
J'ai pas critiqué Alex Lenné. Tony Lenné, vous voulez dire? Tony Lenné. Mon idée n'était pas de critiquer Tony Lenné. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement. J'en ai beaucoup entendu parler, je suis arrivé après. Je l'ai vu en conférence, mais bon. Non, c'est par rapport à la position des... Parce que j'ai fait référence à des critiques qui étaient faites aux psychiatres communistes qui me semblaient non sans raison. Ceci dit, moi, je pense que des gens comme Tony Lenné, ce que j'ai su de son travail, ses livres, les films qu'il a fait à la télé ont été une œuvre de salubrité publique et le travail qu'il a fait avec Carlin était très beau, il était extrêmement émouvant. Alors après, à cette époque-là, il a été dit que c'était, voilà, c'était des réformistes, il fallait faire la révolution, donc il cartonnait. Je crois que c'était par rapport à des gens comme lui, et aussi comme Bonafé, voilà, parce que la critique de David Cooper, elle est bien, mais il a dû tenir le coup 10 ans. Puis après, il a trouvé que c'était insupportable, une putain de vie comme ça. Des gens comme l'aîné, il a fait ça jusqu'à sa mort, et il est mort au loin, pendant un congrès. Bonafé, pareil, il y a comme des gens qui ne dételaient pas, qui en voulaient. Quoi. Voilà. Je ne crois pas que réformiste soit une insulte. À l'époque, ça pouvait être une insulte. Maintenant, c'est un effort exceptionnel. Alors, sur la maladie d'Alzheimer, je ne sais pas. Alors là, franchement, sur ce qui se passe pour la maladie d'Alzheimer, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un certain nombre d'institutions qui se sont créées. Je ne sais pas. Voilà, sur les infirmiers qui ne sont pas psychiatriques, oui. Enfin, c'est vrai que ce que j'ai entendu sur la maladie d'Alzheimer, c'était comment faire des appartements pour que les gens ils puissent s'y retrouver. Mais c'est vrai que la pratique de soins, la pratique du soin paraissait, on ne voyait pas la place. Ouais. Il y a toujours existé
des zones où pas grand monde s'intéressait, produisait, écrivait et agissait. C'est la maladie d'Alzheimer actuellement. Sincèrement, je ne sais vraiment pas. Sur les infirmiers qui ne sont pas des infirmiers psychiatriques, oui, je crois que c'est une des évolutions. C'est une des choses qui disait que... Donc c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'après, on disait faut pas... Il y a une psychiatrisation de la vie sociale. Et puis on dit, pas de problème. On va mettre des infirmiers qui ne s'intéressent même pas à la psychiatrie pour s'occuper des personnes qui ont des troubles mentaux. Ça doit avoir des conséquences, oui. Ceci dit, moi, quand je travaillais à l'hôpital psychiatrique, le truc des infirmiers psychiatriques, quand ils disaient pourquoi ils avaient fait ça, ils répondaient tous, parce que c'était une formation payée. Bah, ceci dit, ils avaient quand même fait ça jusqu'au bout, ils auraient pu changer, parce qu'il y avait d'autres formations payées. Donc je crois que c'était une réaction un peu défensive. Mais c'était quand même le truc qui... je suis pas sûr qu'ils aient su... Ils n'étaient pas tous partis pour défendre leur profession. D'autant plus que c'était plus... Du point de vue statut social et rémunération, être assimilé aux infirmiers DE était un progrès pour eux.
Dans le privé. Alors c'est vrai que c'est très bien pour le personnel et pour l'administration qui là se rejoignaient pour une fois, et c'est beaucoup moins bien pour les patients et leurs proches. Donc aujourd'hui on ne forme plus d'infirmiers depuis 92, on les forme par de l'accompagnement ou du tutorat. En fait, venez, on verra ça en roulant. J'ai entendu et vu des choses effrayantes en termes de prise en charge de patients. Donc, je ne sais pas si on peut bouger là-dessus, si on peut en parler. C'est Doust Blasi qui avait contourné tout ça en disant « on ne fera pas de formation supplémentaire, ils apprendront avec leur père ». Or, je ne sais pas aujourd'hui combien d'infirmiers pré-92 sont toujours dans les services. Mais je ne pense pas qu'il y ait du 1 pour 1. Et je ne pense pas qu'ils aient le temps de former des gens sur leur temps de travail. Voilà, donc ça, c'est un problème qui est un peu hors de la conférence, mais puisqu'on en a parlé là. On parlait d'aujourd'hui.
Il existe des sites internet où il y a des infirmiers psychiatriques qui parlent de leur expérience, notamment des gens qui avaient travaillé avec Tony Lenné, qui était dirigeant locaux du Parti communiste français. Et il y a plusieurs sites où il y a des trucs intéressants qui sont dits. Avec l'idée d'une transmission qui risque de ne pas se faire. C'est vrai qu'il y a des gens... Surtout quand ils ont vécu, il y a des gens qui ont quand même vécu où ils avaient un rôle de flic, de gardien, de contention physique. Ils ont vu une évolution de leur travail. Puis maintenant, c'est associé quand même à l'idée que la souffrance mentale, la souffrance morale, c'est une souffrance comme une autre. Il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur les neurosciences avec l'idée qu'ils vont trouver des localisations par rapport... ils ne désespèrent pas. Quoi. Entre les travaux sur les neurosciences et puis les travaux génétiques. Dans les deux cas, ils trouvent des choses, mais pour l'instant, ça n'a jamais d'application pratique. Quoi. C'est comme il y a l'idée pour les antidépresseurs. Il y a des gens qui pensent que la dépression, il faut trouver le bon antidépresseur. Il y a eu un certain nombre d'annonces pour dire on va pouvoir maintenant vous trouver l'antidépresseur qui correspond à telle forme de dépression. Ça ne marche pas. Il y a des gens... c'est un tâtonnement, quoi, la prescription. C'est-à-dire qu'il y a une marge importante entre ce qui est dit, entre la recherche fondamentale dans les neurosciences, qui est importante pour les neurologues, mais même en neurologie, il y a quand même des maladies qui se soignent quand même toujours très mal. En tout cas, il y a des recherches, les recherches génétiques, qui ont des succès par rapport à des maladies orphelines. Et puis après, l'idée de trouver une constellation génétique qui correspond à des troubles psychiatriques, on peut quand même penser que c'est une idée un peu folle. Il n'y a pas vraiment de raison. Il y a eu deux, trois exemples. Il y a eu le syndrome de l'X fragile pour certaines formes d'autisme, mais ça fait pas beaucoup de monde. Hein. Et après, il y a des recherches pour les troubles maniaco-dépressifs, mais ils ne trouvent pas, ma connaissance. C'est-à-dire qu'ils disent que ça existe dans les familles, mais après, ça ne prouve quand même pas qu'on va trouver un système de gènes pour autant. Il peut se passer quelque chose de répétitif dans une famille.
Moi, quand j'étais petit, j'avais entendu parler de sa famille où on se pendait. Bah oui, mais quand on est élevé avec l'idée qu'il y a le tonton qui s'est pendu et puis que le cousin aussi, et puis dans la même grange, est-ce que c'est un truc génétique qui amène à accrocher la corde un jour? Je sais pas, il y a des horreurs comme ça, quoi. On raconte des horreurs dans des familles. Enfin, on raconte des horreurs dans toutes les familles. Parfois, des horreurs qui sont particulièrement mortifères.
Bonjour. Je voulais savoir comment ça se fait un psychanalyste ou une psychologue n'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Pour être remboursé par la sécurité sociale, il faut être médecin. Donc si on est médecin, psychiatre et psychanalyste, les psychiatres, psychanalystes, il y en a qui séparent entièrement leurs deux professions. Donc ils font des psychanalyses sans feuille de soins et du travail avec feuille de soins. Puis après, il y a toutes sortes de choses qui se font. Après, les psychologues demandent à avoir un remboursement par la sécurité sociale. Je ne sais pas où ça en est, mais je sais que c'est une revendication. Il y avait des projets. Oui, il y a eu plusieurs expériences. Des assurances privées comme AXA ont fait différentes expériences. Parce que l'idée, c'est que ça coûte quand même moins. Ça serait moins cher. Il ne semble pas qu'AXA ait un amour débordant pour les psychologues cliniciens, mais ils ont remarqué que ça pourrait peut-être être moins cher. Donc, je crois avoir lu qu'ils essayent plusieurs choses. Ce qu'ils veulent là. Voilà, c'est un champ plus large, mais il est quand même probable qu'on arrivera à un démantèlement de la sécurité sociale au profit des assurances privées. En tout cas, c'est un projet, c'est des projets officiels. Hein. C'est pas de l'hallucination. C'est des forces extrêmement importantes qui sont à l'œuvre là-dedans. Et après, on verra bien ce qui sera remboursé, pas remboursé, mais. Ils rembourseront un peu si. Les gens qui ne paieront pas beaucoup. Les gens qui paieront beaucoup seront bien remboursés.
Je voudrais revenir sur la question des électrochocs. Je suis un peu sceptique en fait. Je voudrais savoir si c'est vraiment utilisé en dernier recours et si c'est pas utilisé contre la volonté des patients. En fait.
Alors,
s'il n'y a pas de risque de ce
sur le fait sur l'utilisation contre la volonté des patients, non. Et puis. Il y a la loi de 1990 qui définit les droits des patients, des lois de Kouchner, qui d'une certaine manière peut être considérée comme ayant repris des choses qui avaient été demandées par la charte des internés dans les années 70. Donc, normalement, non. Sur le dernier recours, à ma connaissance, oui, mais je ne suis pas un spécialiste du tout, et ça se fait à l'hôpital, je ne suis pas à l'hôpital. En tout cas, ce que je peux vous dire, dans les choses qui se disent, c'est que il y aurait qui soutiennent qu'il y a moins d'effets secondaires à faire des électrochocs à quelqu'un qui a une dépression très grave que de prescrire des médicaments, des antidépresseurs à la suite. Voilà, je ne sais pas si c'est prouvé, s'il y a des enquêtes, mais ça s'est beaucoup dit. Ça se disait par exemple que quelqu'un qui avait 70 ans, qui faisait un épisode mélancolique, c'est une dépression extrêmement grave. Mais il valait mieux, c'était une indication d'électrochoc parce qu'il se remettrait plus facilement, alors qu'avec les antidépresseurs, comme il y a un certain nombre qui ont des effets secondaires variés, c'était plus risqué. Mais bon, c'est pas ma spécialité, j'essaie de me tenir au courant, mais je ne sais pas exactement. En tout cas, sur le fait que ça ne soit pas fait contre la volonté, je crois qu'il n'y a pas de doute, quoi.
peut-être.
Mais pas. Oui, pardon. Mais oui, je crois. Enfin, il semblerait que par rapport à la question du consentement éclairé, c'est que c'est presque utilisé dans l'autre sens. Vous voulez pas signer ? D'accord. Au revoir. La tendance est à ça. C'est donc un délaissement des personnes qui souffrent. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'était on les fout, où c'était vrai qu'il y avait quelque chose d'autoritaire qui se passait. Là, il y a quand même un certain nombre de. On en croise dans la rue, quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi vous en déduisez qu'il n'y a pas de solution. Je n'ai pas voulu dire ça, je vous jure. Hein. Pourquoi vous en déduisez ça ?
Parce que vous dites, la personne, finalement, elle va soigner, alors qu'elle souffre.
Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a un risque. Le risque le plus important, c'est pas que, c'est, à ma connaissance, c'est pas que quelqu'un se retrouve en train de subir des électrochocs alors qu'il ne veut pas. C'est qu'il soit extrêmement mal et que si il est en train de peser le pour et le contre, il n'est pas soigné du tout. Voilà. C'est-à-dire que c'est une conception de l'individu, de la liberté individuelle, dans une société qui ne pense plus les solidarités. Voilà, y a un risque comme ça, c'est dans le terme du risque. Alors après, si la question c'est de dire est-ce qu'on soigne tout le monde ? Non, on ne soigne pas tout le monde, et en médecine non plus. Et en médecine, il y a des gens qui sont soignés qui vont moyennement mieux après, contrairement à ce qui est dit. Voilà, la vie n'est pas simple. Mais j'ai nullement dit qu'il y avait une absence d'efficacité de la psychiatrie et de la psychanalyse. Non, c'est vrai, je vous assure, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein.
Bon, simplement, on va peut-être clôturer la séance parce que, d'une part, donc, il est 20h passé. Je pense qu'on est un certain nombre à avoir envie de profiter du buffet en haut, mais par ailleurs, on peut de toute façon continuer cette discussion. Et puis, il y a une autre séance qui suit, donc on est obligé d'un petit peu de respecter les horaires. Donc, merci à tout le monde et peut-être à tout à l'heure.